Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui.
Bonjour. Dans l'automobile, dans la gastronomie ou dans les airs, en associant leur nom à des événements cultes, dans l'intérêt de leur entreprise, les frères André et Édouard Michelin ont été des précurseurs de la publicité institutionelle. Michelin, 100 ans d'aventure, de Herbert Lottmann, a été publié chez Flammarion en 1998. Comme si fabriquer des pneus capables de boire, d'avaler ou de gober l'obstacle sur les routes d'Europe et d'Amérique ne suffisait pas, les Michelin, en un rien de temps, furent là-haut, dans les airs. André Michelin croyait depuis longtemps à l'avenir du vol. D'abord en tant que voyageur novice en ballon une douzaine d'années plus tôt, puis en tant qu'ardent avocat des engins plus lourds que l'air. On aurait dit que son activité concentrée au sol élevait ses pensées vers le ciel, tel un moderne dédale fuyant les limites terrestres sur des ailes. Que les intérêts de la compagnie caoutchoutière familiale puissent éventuellement s'enrichir de la prolifération des aérostats aux enveloppes de caoutchouc et des appareils utilisant ce matériau pour leur fuselage, aussi bien que pour leurs pneus, pouvait être une considération. Mais il fallait tout de même être visionnaire pour commencer lorsque les Michelin le firent. Le seul fait d'envoyer en l'air un engin manœuvré par un homme et de l'y maintenir était un exploit. Authentique pionnier, le pilote Henri Farman avait battu le précédent record du monde avec un vol d'un kilomètre le 13 janvier 1908. Le 6 mars, les frères Michelin entraient dans le jeu en envoyant une lettre à l'Aéroclub de France offrant de sponsoriser les prochaines grandes aventures du ciel. Désireux de contribuer au développement de l'aviation, cette industrie qui, elle encore, a pris naissance en France, nous avons le plaisir de vous offrir une coupe et un prix spécial destiné au plus lourd que l'air. La coupe elle-même devait être un objet d'art valant au moins 10 000 francs, accompagné d'une somme de 15 000 francs que les frères fourniraient chaque année pendant les 10 ans à venir. Le pilote gagnant devrait voler sur un parcours déterminé par l'aéroclub français ou par un club étranger affilié sur une distance égale au moins à deux fois celle du vainqueur du prix précédent. Faute de gagnant, les 15 000 francs seraient ajoutés au montant du prix de l'année suivante. Quant à la coupe, elle passerait de main en main pour rester la propriété du vainqueur de la 10e année. Le second concours requérait davantage d'élaboration. Les Michelin eux-mêmes, dans leurs lettres, parlaient de prix spécial, éventuellement. D'ici au 1er janvier 1918, c'est-à-dire dans un délai de 10 ans, le pilote devrait suivre un itinéraire bien précis dans un appareil à deux places avec un coéquipier. Décollant d'un point de son choix dans les départements de la Seine ou de la Seine-et-Oise, il tournerait autour de l'Arc de Triomphe, puis volerait jusqu'à Clermont-Ferrand pour y tourner autour de la cathédrale, avant de se poser au sommet du Puy-de-Dôme, altitude 1465 mètres. Le temps de vol entre l'Arc de Triomphe et le Puy-de-Dôme ne devrait pas excéder 6 heures. Au sol, d'après le guide Michelin 1908, la distance de Paris à Clermont-Ferrand était de 380 km. Évidemment, ce prix d'un montant de 100 000 francs semblait parfaitement inaccessible. On aurait dit que le sommet du Puy-de-Dôme représentait une forme d'exorcisme pour les frères Michelin qui, à Clermont-Ferrand, ne pouvaient jamais échapper à son emprise, que ce fût chez eux, au bureau ou à l'usine. Pour le reste du monde, l'idée même de proposer un vol jusque dans la lointaine Auvergne paraissait un peu folle. Seules les coupures de presse de l'époque peuvent nous apporter un témoignage sur la façon dont l'idée fut reçue. Un quotidien, au moins, choisit de ne pas prendre l'affaire à la légère. En instituant cette épreuve, notre grand caoutchoutier national nous fait l'effet d'un joyeux blagueur à froid, écrivit l'éditorialiste de l'Aurore, visiblement hostile à la proposition. L'hebdomadaire L'Illustration, qui avait jusqu'à présent suivi la progression des Michelin avec bienveillance, se montra plus sévère. Je persiste à penser, écrivit Henri Levedan, romancier, dramaturge, académicien, que les héros méritent d'être protégés contre l'héroïsme de leur prochain et contre le leur. S'ils passaient la fantaisie demain à un milliardaire américain de proposer un prix de 2 millions pour l'aviateur qui franchirait les pôles ou monterait à 10 000 mètres, j'estime qu'il commettrait une action stupide et criminelle. En résumé, il ne faudrait pas que nos aviateurs devinssent des gladiateurs. Les frères Michelin rapportent qu'ils entendirent quelqu'un s'exclamer « Farceur, ils offrent un prix qu'ils n'auront jamais à verser. Ce n'est pas avant 50 ans que pareille prouesse sera réalisée. » Ce fut pour répondre aux sceptiques, notamment aux clients qui écrivaient pour dire que les Michelin feraient mieux de consacrer leur temps à essayer de fabriquer des pneus qui n'éclatent ou ne crèvent pas si souvent, qu'André prit sa plume pour rédiger l'une de ses chroniques dont il avait le secret. Si les Michelin engageaient un total de 260 000 francs dans des prix, expliqua-t-il, c'était précisément pour que leurs clients finissent par économiser de l'argent sur leurs pneus.
À bientôt pour de prochaines lectures.